Nzamba.
Nzambira samirana.
Nous sommes mardi 12 octobre 2021. C'est l'heure de suivre le journal sur la radio Inzamba Agathe Kakawe. D'abord les titres. Un empailleur du nom d'Aruna Ndayizeye a été tué par balle lundi en commune Gasogwe, province Muyinga. Il s'agirait d'un règlement de compte. Dans ce journal, l'on vous parlera aussi d'un groupe d'inconnus en uniforme militaire qui ont enlevé 4 personnes issues d'une même famille dans la zone Minago, commune et province de Rumonge. Et puis, la discrimination caractérise l'opération de destruction des constructions anarchiques. C'est ce que démontre un rapport du Forum pour le renforcement de la société civile. Le FORSC qui s'interroge sur le fait que des infrastructures du CNDD-FDD construites dans des espaces protégés ne sont jamais touchées. Voilà pour les titres. Josephine Jones, Mundimana est au micro. Bonjour, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Une personne a été tuée par balle le soir de ce lundi par des personnes non encore identifiées. Le défunt était connu sous le nom d'Aruna Ndayizeye, originaire de la colline Nyungu, commune Gasogwe, province Muyinga. 2 suspects ont été appréhendés pour enquête. Les détails avec Beni Akserakana.
Selon des sources émanant de cette colline, Aruna Ndayizeye a été tué dans la soirée de ce lundi vers 18h30 par des personnes non encore identifiées et lui ont tiré une balle au niveau du thorax. La victime, commerçant et orpailleur Abuti Hinda, a été tuée devant son domicile quand il rentrait d'une prière à la mosquée, précise la même source. Après le crime, ces assassins se sont volatilisés dans la nature avec leurs armes. Aruna a aussitôt été évacué à l'hôpital de Muyinga où il a rendu l'âme quelques instants après. On ignore encore le motif de ce crime, mais des rumeurs font état d'un règlement de compte lié à une affaire d'argent entre la victime et d'autres orpailleurs. L'administration et la police ont aussitôt organisé une fouille dans la localité, mais ils n'ont rien trouvé, indique notre source. 2 suspects, parmi lesquels un orpailleur qui travaillerait avec feu Aruna, ont été arrêtés pour des raisons d'enquête, ajoute la même source.
4 personnes d'une même famille ont été enlevées dans la matinée de ce mardi par des inconnus en uniforme militaire sur la sous-colline Mhuzu, zone Minago, commune et province de Rumonge. Les auteurs du rapt étaient guidés par un Imbonerakure habitant sur cette colline. Le point avec Blaise Nijimbere.
Selon des sources proches des victimes, c'était à 2h du matin ce mardi sur la sous-colline Midodo, colline Mohuzu, zone Minago, commune et province Rumonge. Le nommé Nimona Alexis, âgé de 60 ans, ses 2 enfants, Ndouamungu Eric et Nsabiyumva Gabriel, ainsi que son domestique et prénommé Firmé, ont été arrivés par les gens en tenue militaire à bord d'un véhicule de double cabine de couleur rouge dont la plaque n'a pas été identifiée, selon les sources sur place. La femme de Nimubona Alexis et une autre domestique n'ont pas été touchées. Les voisins des victimes ont reconnu dans cette opération un Imbonerakure nommé Zidorera alias Asuman. C'était lui qui guidait ses militaires pour suivre les mêmes sources. L'administratif à la base et la police confirment l'information, mais rien sur l'identité des auteurs de ces enlèvements. Les proches des personnes arrivées indiquent que sur cette sous-colline Midodo, les gens sont beaucoup pourchassés par les jeunes Imbonerakure, affiliés au parti CNDD-FDD, les accusant que les enfants vont en exil pour embrasser les groupes armés. Les proches des victimes demandent à la police et à l'administration de s'impliquer pour que les auteurs soient connus, d'autant plus que les éclaireurs ont été identifiés. La rédaction de la radio Inzamba Agathe Kakawe n'a pas encore eu la version de Nzirorera alias Asuman citée dans cette affaire.
L'inquiétude grandit chez des proches de 4 habitants de la zone Muzirachanda en province Mwaro. Ils ont été arrêtés au début de ce mois par le responsable du renseignement dans cette province. Plus de 10 jours après, aucune nouvelle d'eux. Leur famille dit craindre pour leur vie. Les précisions de Diane Nkurunziza.
Cri du cœur des proches de ces quatre personnes, membres d'une même famille, détenues dans un lieu inconnu de leurs proches. Ils s'en remettent à Dieu après avoir attendu plus de 10 jours sans aucun signe de vie. D'une voix de désespoir, il exprime sa crainte sur le sort réservé à ces personnes.
Nous n'avons aucune nouvelle, aucune, jusqu'à présent. Nous ne savons pas où ils se trouvent, s'ils sont encore en vie ou pas. Rien vraiment, rien. Nous sommes dans le désarroi.
Les proches de ces personnes réclament des informations sur le lieu où seraient détenus les deux hommes et leurs deux fils.
Je ne peux pas dire s'ils sont à tel ou tel autre endroit. Nous avons peur d'y aller. Ça m'énerve vraiment. Des fois, nous nous disons que si nous allons chercher des informations sur eux, nous serons à notre tour arrêtés parce que nous ignorons de quoi ils sont accusés.
Du côté d'Eliphaz Niyongabo, responsable du renseignement à Moaro, cité dans ses arrestations, c'est le silence radio. Au lendemain de l'arrestation de Justin Ikorikwigomba, doyen des élèves du lycée Moaro arrêté à son école le 1er octobre dernier, la radio Izamba a contacté par téléphone le chef du service des renseignements, mais il s'est refusé à tout commentaire. Et le lendemain, le 2 octobre, dès l'arrestation de ces trois autres personnes, nous essayons de le joindre par téléphone. Tantôt le téléphone sonne et ne décroche pas, tantôt le téléphone ne sonne pas du tout. Outre donc ce doyen des élèves du lycée Moaro, les autres sont Dikouma Naeli, son père, militaire à la retraite. Le deuxième est Ndaïssa Bapierre, le frère de ce dernier, lui aussi ancien militaire, et son fils Aristide Ilangabillé. Ils ont tous été arrêtés à leur domicile à Buzira-Tchanda le 2 octobre à 5h du matin.
Au moins 8 personnes ont été tuées, dont 5 corps retrouvés, tandis que 3 ont été arbitrairement arrêtés au cours de la semaine écoulée. C'est ce qu'indique le bulletin hebdomadaire de la Ligue des droits de l'homme Iteka. Selon cette Ligue, les auteurs sont des jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir, des policiers, des administratifs et des agents du Service national des renseignements. La Ligue Iteka demande au gouvernement d'arrêter et traduire en justice les auteurs. Écoutez Nsabimana André, porte-parole de la Ligue Iteka.
La Ligue burundaise des droits de l'homme, Iteka, vient de publier son bulletin hebdomadaire Iteka Nijambo, numéro 286, de la semaine du 4 au 10 octobre 2021. Au cours de cette période, des allégations de violations et des violations des droits civils et politiques ont été enregistrées comme suit. Au moins 8 personnes tuées, dont 5 cadavres retrouvés et 3 personnes arrêtées arbitrairement. Parmi les victimes figurent 2 femmes et 2 mineurs tués. Des policiers, des Imbonerakure, des agents du Service national de renseignement et des administratifs sont pointés du doigt comme étant les présumés auteurs de la plupart de ces violations des droits humains. Ce bulletin relève des cas d'atteinte au droit à la vie et au droit à la liberté. Ce bulletin revient aussi sur la justice, la gouvernance, l'environnement et des faits sécuritaires, dont des attaques à main armée ayant emporté des vies humaines et des blessés. La Ligue Iteka s'insurge contre l'impunité des crimes observés et demande à l'État de poursuivre en justice leurs auteurs sans parti pris.
La candidature de Nyabenda André, présentée par le Burundi pour être membre du nouveau comité de lutte contre la torture, a été rejetée ce lundi lors des élections organisées par les États membres. Selon Armel Niyongere, président de l'Association pour l'abolition de la torture au Burundi, la candidature du Burundi n'a pas été retenue parce qu'elle ne remplit pas les conditions exigées. Parmi ces conditions figurent l'indépendance des candidats et les connaissances approfondies en matière des droits de l'homme. Suivez Armel Niyongere.
Pour être élu membre de ce comité, il y a des conditions à remplir, et notamment les personnes élues membres du comité doivent être des personnes de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Les candidats, les personnes doivent siéger à titre personnel, même s'ils sont représentés ou désignés par des États, ce qui signifie qu'ils doivent être indépendantes et qui ne représentent pas leur pays. D'ailleurs, il est impossible de siéger lors de l'examen de leur pays. Ces experts du comité contre la torture sont élus par les États partis compte tenu d'une répartition géographique équitable et de l'intérêt que présente la participation aux travaux du comité de quelques personnes ayant une expérience juridique. Ils sont élus pour un mandat de 4 ans. L'intérêt pour le Burundi de présenter la candidature de M. André Nyabenda était de donner l'impression de s'impliquer dans la question des droits humains, mais cela ne lui permettait pas de se dégager d'aucune de ses obligations en tant qu'État parti à la Convention contre la torture.
Inzamba.
L'implication de la mesure de destruction des constructions dites anarchiques et discriminatoires, c'est le constat du Forum pour le renforcement de la société civile dans un rapport qu'il vient de publier sur cette opération à travers le pays. Le FORSC se base sur des infrastructures du parti CNDD-FDD qui, elles, ne sont jamais touchées alors qu'elles ont été érigées dans des espaces que la mesure du ministre de l'Intérieur qualifie d'espaces interdits d'occupation. Voici les explications de Vital Nshimilimana, secrétaire général du FORSC.
C'est une lecture critique en ce sens que ce n'est même pas la première fois que nous relevons cet état de fait, où certaines autorités, notamment le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, s'est carrément substitué à la loi. Parce que les mesures qu'il a prises, qui sont appliquées différemment, de manière discriminatoire, compte tenu des personnes concernées ou des biens concernés, n'a pas de base légale. Et puis, aujourd'hui, nous constatons que le CNDD-FDD continue à travailler comme si c'était l'unique dirigeant qui vient au pays, alors que le pays a été dirigé pendant plusieurs décennies déjà, et que toutes ces constructions qui sont visées étaient là. Compte tenu de la définition donnée par cette autorité qui a mis en place cette politique, nous voyons la construction, ou plutôt l'édifice du parti CNDD-FDD érigé dans la zone de Ngagara qui sert de permanence de son parti. Il y en a aussi plusieurs monuments et constructions qui se trouvent sur le boulevard Bucunyori et à Kinama et à Chibitoke. Il en est de même dans plusieurs localités du pays, comme à Murambya, à Mwaro. Il y a beaucoup d'exemples. Cet état de fait s'explique par le fait que le régime du CNDD-FDD a érigé la terreur en mode de gouvernement. Et donc, ce sont des gens qui se substituent à la loi. Une telle autorité vient pour donner une instruction laquelle est appliquée par tout le monde, à l'exception de certaines personnes qui sont protégées par ce régime. Et donc, on voit que le Burundi, les Burundais, au fur et à mesure qu'ils s'habituent à cet état de fait, ils finissent par se convaincre que les gens ne sont pas égaux et que la loi également ne peut pas s'appliquer de manière équitable, égale et juste pour tout le monde.
Grogne chez les agronomes communaux et les inspecteurs phytosanitaires provinciaux. La raison est qu'ils n'ont pas reçu en totalité le carburant qui leur avait été octroyé par le projet d'appui au secteur du café financé par la Banque mondiale. Ils indiquent que ce carburant a été détourné par les chefs des bureaux provinciaux de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. Ils demandent au ministère de tutelle de sanctionner tous les directeurs qui auraient détourné ce carburant. Plus de détails avec Trifine Kanewabo.
Ce projet d'appui dans le secteur de la culture du café, sous financement de la Banque mondiale, avait prévu des primes et facilités à ceux qui travaillent dans le domaine de l'agriculture au niveau des provinces et communes. Primes et carburants pour les agronomes communaux et inspecteurs phytosanitaires des provinces. Chacun devrait bénéficier de 60 litres d'essence pour pouvoir bien vaquer à toutes les activités qui étaient prévues dans ce projet. Le carburant a été donné au directeur des bureaux provinciaux de l'environnement, agriculture et élevage sous forme de bons qu'il devrait distribuer aux bénéficiaires.
Le projet est en son terme, mais il devait aux agronomes communaux et inspecteurs litres phytosanitaires, du carburant, 60 litres d'essence pour chacun. Il y a eu une réunion des coordinateurs du projet avec des directeurs des bureaux provinciaux. Ils ont été tous régularisés et ont eu des bons qui devraient distribuer à leurs administrés pour aller s'approvisionner à la pompe. Les bons étaient de 160 litres pour chacun.
Le jour de la réunion avec les coordinateurs du projet pour distribuer les bons, certains des directeurs provinciaux étaient représentés par les agronomes de confiance. Après la distribution de ce bon, les directeurs provinciaux se sont réunis pour étudier comment ils vont grignoter ce carburant pour ne donner aux agronomes sous leur responsabilité qu'une quantité minime.
Ils se sont convenus de donner une partie aux agronomes et inspecteurs. Dans plusieurs provinces, certains ont eu 60 litres, d'autres 80 litres, et le reste, c'est la part du lion des directeurs des bureaux provinciaux, les BPAI.
Les agronomes communaux et inspecteurs phytosanitaires demandent au ministère de tutelle de punir les directeurs des bureaux provinciaux qui ont agi ainsi. La rédaction de la radio Inzamba, Agathe Kakawe, n'a pas encore eu la version du coordinateur du projet en la personne d'Ongaye More, ni celle du ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage, d'Eogu Drurema, sur ce grogne des agronomes et inspecteurs phytosanitaires.
Des efforts ont été consentis pour diminuer les risques liés aux catastrophes et de nombreuses victimes des inondations et des glissements de terrain ont trouvé des réponses d'urgence. Déclaration faite par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ce mardi. Il a dit à la veille de la célébration de la Journée internationale de réduction des catastrophes. Suivez le ministre Gervais Ndirokobucha.
Des réponses aux situations d'urgence ont été apportées, tandis que d'autres sont en cours. Les victimes d'inondations de Gashi et Gitaza en province de Lumonge ont été localisées en 2018 à Mayingo dans la commune de Lumonge et y mènent une vie décente. Des solutions durables ont été apportées aux victimes du glissement de terrain survenant en décembre 2009 à Nyemundu dans la commune Mugina, province Chibitoki, où 250 maisons semi-durables ont été construites. À Gisheke, une école primaire sera bientôt construite. À ce site, et le pont Nyatubindi a été réhabilité pour y accéder. Des ménages locataires et victimes d'inondations à Gatumba, dit au débordement des eaux de la rivière Rusizi, ont bénéficié des frais de location pour 3 mois, tandis que les ménages et propriétaires de maisons détruites, qui ne peuvent plus retourner dans les zones d'origine, seront installés dans une zone qui est en cours d'identification pour n'en citer que celle-ci. Le gouvernement du Burundi ne ménagera aucun effort pour la mise en œuvre effective du cadre de Sendai dans la prévention des risques et la gestion des catastrophes.
C'est la fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inzamba pour la production de ce journal. Un grand merci également à vous, chers auditrices et auditeurs, pour votre fidélité. Au revoir.